Il est 6h du bat et le podcast prend une pause hivernale. Mais ne t'inquiète pas, le réveil continue de sonner pour un format hors-série, à la découverte de projets atypiques ainsi qu'un best-of des différents épisodes que l'on a pu disposer cette année. Installe-toi, toujours aussi confortablement, et profite de l'épisode qui va suivre. On est le 25 décembre et moi aussi j'avais envie de vous faire un cadeau en ce jour de Noël. Vous me l'avez demandé, et du coup, voici le best-of. Pour vous, j'ai sélectionné parmi les 41 occasions qu'on a eues de réveiller le BTP en 2023, les parcours et les invités qui m'ont inspiré. C'est une ligne éditoriale totalement subjective. Voilà, je me fais un petit plaisir et j'espère qu'il vous plaira. Mais j'ai sélectionné 4 parcours, 4 invités qui, pour moi, reflètent ce que j'aime trouver dans le secteur du bâtiment. C'est-à-dire de la diversité, des valeurs auxquelles je crois profondément et surtout qui montrent que le BTP, c'est vraiment très très riche au niveau des parcours et au niveau des personnes qui l'incarnent. Pour commencer, je te propose de retrouver notre première invitée de la saison 2, c'était Charlotte Leroux. Elle est passée des pistes de ski à un atelier de formation au métier du bois. Moi, j'ai adoré cette rencontre avec Charlotte. En tout cas, j'espère qu'elle sera de même pour toi. Je te laisse reprendre, réécouter ce petit passage et on se retrouve juste après.
Donc moi, je suis originaire d'une station de ski dans le sud de la France, à côté de Nice, okay. Qui s'appelle Auron. Et donc, j'ai grandi dans un milieu de skieurs, donc avec des parents moniteurs de ski. Et voilà, j'ai grandi à la montagne. C'est important de préciser parce que c'est ce qui m'a emmené dans le monde du bâtiment. Okay. Après un parcours scolaire assez chaotique, mais pas brillant, on va dire, j'ai loupé mon bac général et en fait c'est à ce moment-là où je me suis posé la question de ce que je voulais faire. J'avais 19 ans et voilà, je me suis dit bon, ce serait dommage de se déscolariser si jeune. Okay. Et j'avais déjà entamé une démarche de passer le monitorat de ski et en fait j'ai trouvé une filière dans les Hautes-Alpes, donc dans le 05, qui proposait un double cursus. Ils appelaient ça le cursus pluriréactif ski-bois. Donc, en fait, okay. Ils nous formaient autant au métier du ski qu'au métier du bois. Et notamment, moi, j'avais choisi le métier de la menuiserie. On avait le choix entre charpente et menuiserie. Et moi, j'avais choisi la menuiserie.
Ok. Ouais, donc toi, t'as un parcours de sportive à la base, avant de rentrer dans le milieu du BTP, c'est ça?
C'est ça. C'est le sport qui m'a emmené dans le monde du BTP. Ouais.
Hyper atypique, c'est clair. Et donc, du coup, après ça, après cette première orientation, du coup, tu as choisi le bois. Pourquoi le bois? Pourquoi ça? Pourquoi ça t'a amené vers le bois et la charpente? C'était quoi ce qui t'a fait basculer vers cette orientation-là?
Alors, au départ, c'était vraiment le ski et je cherchais quand même une filière professionnelle pour passer une année, en fait, c'était ça l'objectif. Ouais. Au départ. Et je voulais quand même un métier professionnel où je touchais de la matière. Ça, c'était quand même un élément important. Et à ce moment-là, j'hésitais entre prothésiste dentaire ou le bois. Et en fait, j'ai choisi le bois parce que il y avait le ski.
Voilà. Si on fait un peu un résumé de cet échange, on voit que toi, à la base, c'était un secteur qui était pas forcément celui auquel on t'avait prédestiné, tu étais plus orienté vers le ski, et au final, via le ski, tu as une passion pour le bois t'a amené à racheter une entreprise, à faire de la formation, et maintenant tu te retrouves à vouloir augmenter ce nombre de personnes à qui tu apprends le métier d'ébéniste. C'est incroyable comme parcours, quoi. C'est ça qui est hyper inspirant, en fait.
Oui, bah c'est merci beaucoup en tout cas. Et c'est vrai que voilà, dans ce monde du BTP, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Et en fait, il y en a pour pas mal de monde.
Monde, quoi.
Et les femmes ont toute leur place dans ce monde-là.
J'espère que ça t'a fait plaisir de retrouver Charlotte, autant que j'ai pris de plaisir à enregistrer cet échange. C'était une discussion passionnante. Et en tout cas, je t'invite à écouter l'épisode complet directement dans la liste des épisodes ci-dessous. C'était l'épisode 17. Maintenant, on passe à un autre invité qui m'a vraiment marqué cette année. Un invité avec qui je ne pensais vraiment pas avoir cet échange. C'est Philippe Banquet, c'est le directeur du groupe Acorus. Acorus, c'est 1800 personnes. Philippe est arrivé quand il y avait 80 personnes. C'est une croissance exceptionnelle, mais c'est une croissance surtout basée sur le service, sur l'emploi, et avec des valeurs qui font vraiment écho à ce que j'aime dans le bâtiment. Donc on valorise les métiers, on valorise les personnes qui sont au sein des entreprises, et les décisions stratégiques sont construites à la fois par le haut du management, mais aussi par la partie vraiment terrain. Les remontées terrain permettent de construire la stratégie du groupe. Et ça, moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, je te laisse redécouvrir ce passage avec Philippe, ce moment de l'épisode qui était super intéressant. Et toi, tu as l'aspect plutôt service, proximité, parcours intrapreneur. Le leitmotiv d'Acorus, aujourd'hui, c'est le service. Comment on construit un groupe comme Acorus tout en gardant cette vision-là de ton point de vue ?
Alors, grand groupe, c'est un peu exagéré. Certes, maintenant, Acorus, c'est grand. On est 1600 personnes, donc ça paraît grand. L'idée de cette construction, puisqu'on a commencé en 2010 avec 80 personnes, l'idée de cette construction, c'est d'essayer de grandir dans ce monde du bâtiment, mais sans devenir grand, en fait, tout en restant une petite boîte dans son fonctionnement ou des petites boîtes, des petites entreprises. Donc, comment on fait ?
C'est clairement de la co-construction, en fait. C'est un peu comme tu l'as dit, au tout début, tu étais dans des groupes à vocation un peu des plutôt grosses entreprises, mais toujours dans un aspect avec les projets d'entrepreneuriat, ce qui fait un peu la force aussi d'Acorus. Beaucoup de petits blocs qui s'ajustent et surtout la volonté de jamais partir de quelque chose de tout neuf, qui sort de terre et bâtir sur l'existant un peu. C'est un peu ça qui vous a aidé à Corus, j'entends, à grossir tout en gardant cet aspect vraiment culture d'entreprise de petite structure à la base, alors que vous étiez 80 et que maintenant vous êtes 1500. Si,
Oui, c'est bien défini. C'est ne pas partir de zéro, ça veut dire surtout ne pas faire de grandes stratégies dans un bureau qui disent finalement on a décidé de faire ci, on a décidé de faire ça. La stratégie, c'est on fait que de la rénovation, c'est quand même suffisamment large. Et derrière, on part des attentes du client, on part des besoins de service de nos clients pour développer, parfois de zéro pour le coup, mais appuyer sur la demande du client, les services dont ils ont besoin. Donc on était plombier, puis un jour on a compris que si on embauchait des maçons, ça plaisait aux clients, on est devenu maçon, on est devenu électricien, on est devenu menuisier, on est devenu peintre. Et c'était le deuxième parti pris qui continue de répondre à la question comment on fait pour faire du service. Faire du service, c'est donner le pouvoir de représenter l'entreprise à des gens qui vont être en contact du client. Donc il faut vraiment pouvoir compter sur des équipes, des techniciens qui auront plaisir à dire c'est Acorus qui est en train de vous rendre service. Et ça, c'est vraiment le deuxième grand truc qui permet de développer Acorus, c'est d'avoir parié sur l'emploi, beaucoup moins de sous-traitance qu'ailleurs, parié sur la maîtrise interne des savoir-faire, parce que c'est ça qui permet de délivrer dans la durée un service de qualité constante, voire même, on l'espère, en amélioration. Mais alors que avec trop de sous-traitance, c'est plus compliqué. C'est sans doute faisable, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué de fabriquer cette accumulation d'expérience, cet apprentissage avec des sous-traitants.
Encore une fois, j'aimerais remercier Philippe de son temps et surtout de son partage d'expérience parce que c'est vraiment ultra, ultra valorisant de pouvoir compter sur des personnes comme ça sur le secteur du bâtiment, dans des activités qui sont pas forcément simples tous les jours, mais avec des capitaines d'industrie comme ça, je trouve que le bâtiment a de beaux jours devant lui. 2023, c'était aussi l'occasion de montrer la diversité du secteur. Et quand je te parle de diversité, je te parle principalement du débat qu'il y a toujours sur la parité entre les hommes et les femmes. La parité entre les hommes et les femmes, elle est largement déséquilibrée dans le bâtiment, mais il y a des gens qui font bouger les choses de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui va forcément bouger, parce que les métiers du bâtiment sont ouverts à la fois aux femmes et aux hommes, et ça, on l'a vu très facilement dans l'épisode avec Cerise Steiner, des fabricoleuses. Cerise, elle a eu un parcours plutôt atypique. Elle a œuvré dans les métiers de la culture, mais maintenant elle est peintre en bâtiment. Elle a créé une asso qui s'appelle Les Fabricoleuses et je te laisse découvrir son parcours juste après.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours et ce qui amène Cerise Steiner dans le BTP ?
Oui, alors je suis arrivée à Marseille il y a 7 ans. Avant cela, vie parisienne, tumultueuse dans la culture, entre autres. J'ai fait 3 ans d'archi intérieur. À l'aube de mes 30 ans. Et lorsque je suis arrivée à Marseille, j'ai continué à bosser un peu dans la musique. Et un dimanche, je m'ennuyais allègrement. Et j'ai eu une idée saugrenue de repeindre mon cafouche. Un cafouche, c'est un placard à Marseille. Donc je suis allée, acheter de la peinture sur la Canebière, vraiment dans une boutique ouverte le dimanche. Et j'ai peint mon cafouche. avec du doré et du vert céladon. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je voulais être peintre en décor il y a des années. Je n'ai pas poursuivi cette voie-là parce que ma maman est tombée malade. Et du coup, je me suis dit, bon, je continue dans ce que je sais faire, l'événementiel, l'artistique, etc.
Ouais, parce que du coup, tu disais peintre en décor, parce que du coup, toi, tu étais orienté sur de la culture, un milieu totalement différent du BTP. C'était ouais. Quoi un peu le quotidien avant que tu repeignes ce fameux placard?
Alors, mon quotidien, il a été très éclectique et très différent pour chaque activité que j'avais. La musique, par exemple, j'étais bookeuse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bookeuse? En gros, c'est un peu le commercial de la musique, c'est-à-dire qu'on défend des jeunes artistes, enfin des artistes émergents, et on est là pour faire connaître ces artistes auprès de programmateurs.
Tu as créé un mouvement qui s'appelle les Fabricoleuses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet, parce que c'est un peu la suite de ton arrivée dans le BTP par cette activité de peintre, c'est ça?
Oui. Alors en fait, c'est allé très vite, c'est-à-dire que j'ai entamé ma reconversion à l'aube de mes 40 ans. Donc, je suis devenue rapidement artisane indépendante. On m'a confié des jolis chantiers. Et la rencontre d'un plombier sur un chantier a embryonné le projet des Fabricoleuses. C'est-à-dire que sur ce chantier, ce plombier était ravi de voir une femme étonnée. Et après m'avoir dit j'adorerais bosser avec une plombière. J'en trouve pas, c'est compliqué, il n'y a pas de femmes dans le BTP, etc.
Ouais.
Vous avez le souci du détail, c'est revenu beaucoup de fois, ça.
Ok.
Le souci du détail, l'esthétisme, vous avez une façon de réfléchir et d'organiser qui est différente. Souvent, ça apaise sur un chantier, etc. Je me suis couchée et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une idée de rassembler du savoir-faire au féminin. Donc, les Fabricoleuses sont nées 9 mois plus tard. Sous la forme d'un collectif à Marseille, le 8 mars 2021.
Ok, donc un collectif de femmes dans le BTP, du coup.
Oui, exactement.
Que des métiers de l'artisanat dans le BTP, la construction et les chantiers.
C'est ça, ça a commencé comme ça, et depuis lors, ça a quand même bien grandi, bien évolué, au gré des rencontres, au gré de la connaissance aussi du secteur. Ça a mûri. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est bien plus qu'un collectif.
Okay.
C'est un mouvement qui vise à atteindre la parité dans la construction des bâtiments et la décoration en féminisant le secteur et en revalorisant nos métiers.
Ok. Et du coup, si on peut aller plus dans le détail de ces métiers, tu dis que c'est parti d'un collectif, maintenant c'est carrément un mouvement. Quels métiers tu rassembles? Quels profils sont présents chez les Fabricoleuses?
Alors, il y a il y a 3 activités qui déterminent les Fabricoleuses. Il y a une entreprise de peinture.
Okay.
Inclusive, on est à chaque fois mixité et inclusion. Une entreprise de peinture, un réseau en ligne qui là pour le coup va représenter tous les corps d'État, construction, bâtiment, décoration, pour les indépendantes, les demandeuses d'emploi, les salariés et les intermittentes, parce que je ne les oublie pas.
Mm-hmm.
Et voilà, et donc ce réseau va également inclure les artisans, entreprises artisanales, TPE, PME, etc.
Et pour conclure ce best-of de l'année 2023, ce best-of pour Noël, ce petit cadeau que je t'ai réservé, je ne pouvais pas me manquer de mettre en avant Paul Perretier de Haddock, parce que Paul, c'est quelqu'un avec qui j'échange énormément sur les dynamiques du secteur, sur les nouveautés, sur la formation, sur l'accès au bâtiment. Et étant super aligné avec ce qu'il propose, je te laisse redécouvrir comment est né Haddock et surtout comment il est arrivé jusqu'à le proposer au métier du bâtiment et comment ça va révolutionner le terrain, les réunions de chantier et aussi d'autres aspects comme les briefings sécurité.
Ok, donc là, Haddock, concrètement, c'est né comment? C'était quoi le principe de base? Du coup, tu dis que c'était pas du tout adapté au BTP, c'est ça qui t'a fait après ramener votre business sur ce secteur. C'était quoi la genèse du projet? Qu'est-ce que vous vouliez soulever un peu comme utilisation et comment vous avez fini au final par l'utiliser sur le BTP?
Oui, mais c'est une très bonne question. Donc, ad hoc.
Très, très long, en plus.
Nous, on développe des projections tactiles. Donc, on a créé une technologie propriétaire qui permet de transformer n'importe quelle surface en écran tactile, que ce soit une table, un mur, une plaque de BA13. Et l'idée initiale, c'était de remplacer les écrans et les projecteurs de salles de réunion par un outil tout en un qui facilite la collaboration, que ce soit sur la table ou au mur. En fait, c'est un marché qui est très concurrentiel, qui est presque saturé. Il y a énormément d'outils de salles de réunion avec des marges pas incroyables, puisque tout le monde se fait un peu la guerre du prix. Les écrans tactiles ont aussi énormément progressé depuis 2016, les grandes dalles tactiles que l'on voit de plus en plus dans les bureaux. Par contre, on s'est rendu compte que cette technologie avait vraiment de l'intérêt pour amener du numérique dans les mains de gens qui bossent sur le terrain, que ce soit dans une usine, sur un chantier, vraiment des gens qui ne sont pas derrière un bureau, pas derrière un écran au quotidien. Et pourtant, ces gens-là, ils ont aussi besoin d'outils numériques. Ils ont aussi besoin des logiciels de l'entreprise, que ce soit pour la planification, pour la remontée d'informations ou même pour la revue de plan. Et comment on est arrivé au BTP ? Et bah, tout simplement en montrant le plus possible notre produit et notre innovation. Tu vois, nous, effectivement, on passe notre vie sur le terrain. On passe notre vie à aller voir des chantiers, à aller voir des... On bosse beaucoup avec les centres de formation du BTP, que ce soit les lycées pro, les CFA du BTP, etc. On est tout le temps dans les ateliers et tout, à rencontrer les formateurs, les apprentis et tout ça. Et c'est génial. Et c'est là où on comprend l'intérêt de notre produit et de ce qu'on fait. Et pour n'importe quel produit, c'est vrai. Tant que t'es pas dans le métier au quotidien, tu comprends pas vraiment les cas d'usage et tu réponds à des espèces de constructions mentales du besoin. Alors que si tu passes du temps avec les utilisateurs, même eux, tu les aides à exprimer quel est réellement leur besoin. Est-ce que c'est gagner du temps? Est-ce que c'est d'accéder à l'information, etc.
J'espère que tu as apprécié ce best-of. C'était le dernier invité que je voulais te faire redécouvrir. C'était un plaisir de réveiller le BTP avec vous tous, et merci d'être de plus en plus nombreux à faire rayonner le podcast sur vos chantiers et auprès de vos collègues. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier hors-série. Il va me rester une dernière chose à te demander. Si tu as apprécié le contenu de cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un avis 5 étoiles. Je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve en 2024 et on continuera de réveiller le BTP.